إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc dans le cours précédent, nous avons vu que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Najdi disait que dans cette nouvelle introduction qu'il était du devoir de tout musulman et musulmane de savoir trois nouvelles choses en plus des quatre précédentes dans la première introduction et de devoir les mettre en pratique. La première qu'il a mentionnée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous a donné la subsistance et qu'il ne nous a pas créés en vain, mais qu'il nous a envoyé un prophète. Celui qui lui obéira entrera au paradis et celui qui lui désobéira entrera en enfer, en mentionnant la preuve à ce sujet. Ensuite, Cheikh, l'auteur nous dit donc أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc ici le Cheikh nous dit la deuxième, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Non. Donc ici cette deuxième chose que tout musulman et musulmane se doit de savoir et mettre en pratique est une chose qui est liée à l'unicité de l'adoration et qui démontre l'authentique méthodologie et la bonne règle dans l'adoration. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié et tous les actes d'adoration lui doivent lui être voués exclusivement. Il doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, seul, sans associé. Ainsi ici le Shir a illustré le lien fort et intime qu'il y a entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Puisqu'étant donné qu'Allah est celui qui nous a créés et nous a accordé subsistance, comme il l'a mentionné dans la première chose, il est de son droit d'être adoré seul, sans associé, comme il le mentionne ici dans cette deuxième chose. Au contraire donc de celui qui ne possède rien de ses actes qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit la création ou la subsistance que nous avons mentionné donc dans l'unicité de la seigneurie. Cette personne-là, celle qui donc ne possède pas ces actes qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, comment peut-il vouloir prétendre être en droit d'être adoré, même si c'est un ange rapproché ou un messager envoyé? Non. Donc la première chose que tout musulman et musulmane se doit de savoir, que nous avons mentionné, elle incarnait l'unicité de la seigneurie, alors que la deuxième, elle incarne l'unicité de l'adoration. Et la personne, elle n'est pas musulmane tant qu'elle ne reconnaît pas complètement ces deux types de monothéisme. Il ne suffit pas d'admettre l'unicité de la seigneurie, étant donné que les polythéistes l'ont eux aussi reconnu, et malgré cela, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, ni même les meilleurs des créatures, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala est seul en droit d'être adoré, et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'a cité l'auteur. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ici, al-masajid, donc c'est le pluriel de masjid, c'est-à-dire les mosquées. D'accord ? Selon l'avis de certains pieux prédécesseurs, elles ont été nommées ainsi car elle désigne tout endroit dans lequel on se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prosternation est le plus immense et le plus noble pilier de la prière. D'où donc l'appellation de ces lieux de culte, masajid, par rapport au sujoud. Et selon certains autres pieux prédécesseurs, les mosquées, elles désignent, ou du moins le mot masajid, désigne en fait les parties du corps sur lesquelles la personne se prosterne. Le front, la paume des mains, les genoux, la plante des pieds. Quand je parle du front, ça comprend aussi le nez. Non. Donc les parties sur lesquelles la personne doit obligatoirement se prosterner. C'est ça que ça désigne ici le mot masajid dans le verset. Et ces parties, donc, sont aussi la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui les a créées. Il est alors interdit de se prosterner sur ces parties pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans la suite du verset n'invoquez donc personne avec Allah, Allah azza wa jalla a donc interdit à l'être humain le polythéisme globalement et d'invoquer qui que ce soit avec lui particulièrement, car l'adoration, l'invocation, c'est l'adoration, comme ceci a été authentiquement rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le verrons dans des chapitres à venir, inshallah ta'ala. Or, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, c'est qu'il ne l'agrée pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée ni la mécréance, ni le polythéisme. Il a d'ailleurs envoyé les prophètes, alayhim salatu wassalam, et révélé les livres divins que nous connaissons pour combattre la mécréance et le polythéisme, et y mettre un terme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ » Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement en Allah. Par conséquent, si Allah n'agrée pas la mécréance et le polythéisme, il est alors du devoir du croyant de ne pas les agréer aussi. En effet, la satisfaction et la colère du croyant, elles doivent être guidées et en complète conformité avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère. C'est ça qui va les guider et le croyant se doit d'être conforme à ceci. Ainsi, le croyant, il ne se met en colère que pour ce qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant est satisfait par ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques reconnues authentiquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ne s'énervait que pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah n'agrée point la mécréance et le polythéisme, il ne convient pas au croyant de les agréer. De plus, le polythéisme est un problème d'une gravité extrême qu'il ne faut pas négliger. Malheureusement, les personnes qui accordent le plus d'importance à la croyance, ce sont justement les gens de la sunna et du groupe sauvé. Mais malheureusement, même chez les gens de la sunna et du groupe sauvé, ou du moins les personnes qui s'y affilient, nous arrivons à voir que, par manque d'enracinement dans cette science, par manque d'études et de compréhension, il arrive certaines fois que nous entendions des propos ou voyons des agissements contraires aux agissements conformes à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance et les multiples recommandations des savants d'accorder de l'importance à cette science. Il est donc très nécessaire, surtout même encore à notre ère, comme on peut le constater, que ce soit dans des pays musulmans ou en Occident, nous pouvons voir que le polythéisme est encore très répandu. On peut voir encore dans de nombreux pays musulmans, ou encore dans des pays d'Occident, dans les communautés musulmanes de ces pays-là, qui sont considérés pour nombreux d'entre eux comme des minorités, nous voyons que de nombreux musulmans, malheureusement, pratiquent encore des pratiques, contraires aux pratiques de l'islam dans le domaine de la croyance, que ce soit du polythéisme mineur ou du polythéisme majeur, comme nous le verrons en détail. Je veux dire les variétés de polythéisme. Non. Donc il faut vraiment y accorder une grande importance et de faire très attention à être enraciné dans cette science pour ne pas entendre ou voir des agissements contraires à celle-ci. Et on revient encore aussi à la première introduction, de faire et de multiplier les efforts dans l'appel des gens à ceci. Car justement, ces actes ne disparaîtront qu'en y invitant les gens et en les éduquant dans cela. Donc il est important aussi que ce soit les prédicateurs ou autres, comme on l'a dit, toutes les personnes sont concernées par la prédication, chacun à son statut. Il est important de faire de nombreux efforts dans la propagation de la croyance authentique. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à propos du polythéisme, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc, comme on l'a vu précédemment, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Non. Et d'ailleurs, ce qui démontre l'importance de la aqida et du dogme et comment dire, les efforts qu'il faut faire dans son apprentissage et dans sa propagation, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'ait cessé de l'évoquer dans son livre, ou encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne une chose que par son importance. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une chose, c'est que cette chose-là, elle a une importance. Et comme le disent les savants, dans tous les cas, tous les versets du Coran se réfèrent à la croyance. Par différentes manières, mais dans tous les cas, les versets se réfèrent à la croyance. Que ce soit en nous mentionnant les histoires des peuples précédents. Ça fait référence justement à l'appel des prophètes lorsqu'ils ont appelé leur peuple à cette croyance. Et comment, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du châtiment qui leur a été réservé, ça nous parle donc de la punition à ceux qui se détournent de cette noble croyance, et ainsi de suite. Non. Ou encore le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, quiconque rencontre Allah azzawajal sans lui associer, entrera au paradis, et quiconque le rencontre en lui associant quoi que ce soit, il entrera dans le feu. Non. Et c'est sur cela, donc, comme je vous disais, que s'est accordée la parole de tous les messagers, de Nour à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ala jami'il anbiya wal mursalin, alayhi salatu wa salam. Ainsi, tous les messagers ont sommé leur peuple de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unifier et de lui vouer la totalité des actes d'adoration, seul, sans associé. Ils ne leur ont pas seulement notifié d'adorer sans aucune restriction. Adorer et c'est tout. Non. Ils leur ont limité cela à l'adoration sincère. Ils les ont invités à adorer, ils leur ont sommé, ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc justement à ce sujet: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du taghut. On voit donc bien qu'ils ont invité à l'adoration d'Allah azzawajal, en la limitant à un culte sincère et exclusif, sans associé. Et lorsque l'auteur il nous dit pas même un ange rapproché, donc Malak, c'est le singulier de Malaika, les anges, eux, sont les serviteurs d'Allah, qui ne devancent pas son commandement divin. Et ils agissent strictement selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais lui désobéir. Et comme il a été rapporté authentiquement dans le hadith de Aïcha, dans l'authentique de l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a dit que les anges étaient créés à partir de la lumière. Et plus tard, lorsque nous évoquerons le hadith de Jibril alayhi salam, nous verrons donc les piliers de la foi et ce que cela comprend. C'est-à-dire, nous verrons que ce que la foi en les anges comprend par rapport à leur création, comment ils sont créés, et qu'est-ce que la foi justement en ces anges implique. Nous devons croire par rapport à leur description et autres, ainsi que les prophètes, les livres et tous les piliers de la foi que nous évoquerons donc dans leur chapitre pour ne pas faire devancer les informations. Non. Ensuite, le cheikh nous dit donc الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا. والدليل قوله تعالى La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Donc ensuite le shir nous mentionne la troisième et dernière chose obligatoire que tout musulman se doit de savoir et mettre en pratique, mentionnée dans cette deuxième introduction, qui est une chose donc qui concerne une question très importante, qui fait partie d'ailleurs des plus grandes règles de la religion, qui est celle que l'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Et l'alliance et le désaveu, c'est aussi fondé sur l'unification, sur at-tawhid. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique créateur et l'unique pourvoyeur, comme on l'a vu dans la première chose. Et puisque l'adoration ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, comme on l'a vu dans la deuxième chose, il doit obligatoirement y avoir une alliance et un désaveu sur cette excellence et sur cette base, qui est donc cette troisième et dernière chose que nous voyons. Ainsi, celui qui nous a créés a sans aucun doute un immense mérite et droit sur nous. Il nous a créés à partir du néant, puis après cela, il nous a accordé subsistance tout le long de notre vie. De ce fait, il est obligatoire pour nous de l'adorer sans associer, car il nous l'a ordonné parce que c'est son droit sur nous. Et parmi les variétés d'adoration, il y a l'amour, al-mahabba, qui est un des actes du cœur, qui eux aussi, que ce soit les actes du cœur ou les actes des membres, tous ces actes sont interdits d'être voués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent être tous voués à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Ainsi, cet amour, il nécessite une alliance et un désaveu sur cette base. Non. On va s'allier avec celui qui a obéi au prophète. Comme ici, le shir y fait référence lorsqu'il nous dit « Quiconque obéit au prophète. » Ensuite, de même que l'on va s'associer avec quiconque unifie Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici le shir nous le dit, et croit en l'unicité d'Allah azza wa jal. Donc toute personne qui obéit au prophète et en plus donc unifie Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, elle n'a pas le droit de prendre pour allié ceux qui s'opposent à Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pas même ses plus proches parents. Non. Cette personne, elle n'a pas le droit d'honorer les ennemis d'Allah Azza wa Jal, de les glorifier ou de les estimer. Il est interdit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est la règle d'al-wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu. Et celle-ci, elle n'est véritablement comprise, cette règle, que par les gens de la sunna et du consensus. Au contraire, donc, des autres groupes égarés, tels que Al-Khawarij, d'accord, sous toutes leurs formes, qui, eux, ne font pas la distinction entre l'amour et les agissements. Au contraire, des gens et de la sunna et du consensus, eux, ils font parfaitement la distinction entre l'amour et les œuvres mondaines des agissements, tels que faire du commerce ou autre. Car malheureusement, ces gens, ces égarés, veulent arriver à leur but ultime de critiquer et de rendre apostats les musulmans et leurs gouverneurs par le fait que des fois, ils font des... comment dire, qu'ils ont des agissements avec des non-musulmans et l'Occident. Or, ceci n'implique aucunement l'alliance et le désaveu. Ça reste des œuvres mondaines. Non. Et cette règle de l'alliance et du désaveu, elle a été mentionnée dans de nombreux versets. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladina amanu, la tattakhidu al-yahuda wal-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna allaha la yahdi al-qawma al-zalimin. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. De même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu alladhina attakhadu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Oh les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Ou encore le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra ala l'iman, wa man yatawallahum minkum fa'ulaika humul zalimun. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Ou encore le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple « Nous vous désavouons, nous nous désavouons de vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Non. Et donc lorsque le shir ici il nous dit anna man ata'a ar-rasul, et donc quiconque obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a répondu à son message et à sa prêche et qu'il est entré dans l'unique religion qu'Allah a agréée et n'accepte en dehors d'elle, qui est la religion de l'islam. Non. Et quand l'auteur nous dit wa wahhad Allah, c'est-à-dire et croit en l'unicité d'Allah, ça veut dire dans sa seigneurie, dans son adoration, et dans ses noms divins et ses attributs parfaits, c'est-à-dire les trois types de monothéisme que nous avons mentionnés précédemment. Puis, lorsque l'auteur nous dit « La yajuzu lahum wa latu man haddallaha wa rasoula wa law kana aqraba qarib » donc, n'a pas le droit de prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah et son prophète, même si ce sont les plus proches, parce que cela est en contradiction avec la foi. Il n'est pas possible d'aimer, d'assister ou de faire triompher une personne qui ne croit pas en ce que nous croyons. Et quand le shir donc nous dit « Walau kana aqrab qarib », même ses plus proches parents, c'est-à-dire en fait que l'alliance et le désaveu, elles doivent être pratiquées avec tout le monde. Ainsi, nous nous allions avec tous ceux qui se sont alliés à Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. De même que nous nous opposons à tous ceux qui enfreignent la religion de l'islam et se sont opposés à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci, le véritable amour, le fait de faire devancer l'amour du Créateur sur l'amour de la créature. De ce fait, prendre comme allié ceux qui s'opposent à Allah Azza wa Jal indique que la foi en Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam est faible dans le cœur de cette personne, voire complètement absente. En effet, il n'est pas convenable d'aimer quelque chose qui est l'ennemi de celui qu'on aime, c'est-à-dire l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit prendre pour allier, cela consiste à les secourir ou les aider dans leurs agissements et leurs égarements. Cependant, cela n'empêche pas de les conseiller et de les appeler à la vérité. Non. Ensuite, donc, le shirk nous mentionne la preuve. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasoola walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins, dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Donc l'explication de ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Tu n'en trouveras pas parmi les gens », ici le message est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement. Bien évidemment, il est adressé aussi à sa communauté par découlement. Non. Ainsi, nous ne trouverons pas parmi les croyants des gens qui s'allient à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, car la foi empêche cela. Et lorsqu'il dit qu'ils prennent pour amis, c'est-à-dire qu'ils ne montrent aucune complaisance, aucun attachement pour ces gens qui s'opposent à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent traiter avec eux, mais sans aucun amour entre eux. Non. Et lorsqu'il dit... Subhanahu wa ta'ala, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Comme on l'a vu tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans de nombreux autres versets, comme celui que nous avons mentionné parmi les nombreux. Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman, wa man yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Non. Ensuite, après avoir mentionné tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a illustré la récompense qu'il a attribuée à ceux qui se conforment à ses caractéristiques. Et le profit de cette alliance et de ces deux aveux en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, il a prescrit la foi dans leur cœur. Ceci donc est le premier profit. Ensuite, il nous dit, et il les a aidés de son secours, c'est-à-dire qu'il leur a donné la victoire et la protection, de même qu'il les a soulagés, il les a aidés. Non, ça c'est le deuxième profit. Ensuite, il nous dit, il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Donc ceci est le troisième profit qui leur est accordé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah les agrée. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés par rapport à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont exécuté des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels justement figurent l'alliance et le désaveu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il l'agrée, c'est-à-dire que les croyants agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé comme immense récompense de sa part. Non. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti, Al-Hizb, c'est le groupe. C'est-à-dire quand des gens se réunissent sur une même chose. Et les gens, de manière générale, sont de deux parties. Le parti d'Allah Azza wa Jal et le parti de Shaitan. Donc eux, les gens de l'obéissance, sont le parti d'Allah. Et l'élite, justement, de ce parti, sont les gens de la sunna et du consensus par rapport à leur rassemblement sur l'amour et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et tant que le groupe il est sur cette configuration qui vient d'être mentionnée, alors il n'est pas répréhensible. Non. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé le mot hizb que c'est quelque chose donc de néfaste ou de répréhensible. Non. Puis Allah subhanahu wa ta'ala conclut en disant « Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent, une réussite qui est dans cette vie d'ici-bas, avec une bonne guidée vers la croyance authentique et une conformité avec la religion de l'islam. » Naam, conformément à la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi une réussite dans l'au-delà, avec le paradis et ses jouissances. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais aussi, le deuxième parti, c'est le parti de Shaitan, qui fait opposition donc à ce parti que nous on vient de mentionner, et à qui il a été octroyé et accordé ses nombreux et merveilleux bienfaits. Le parti donc de Shaitan, qui lui est le parti désapprouvé et le parti qui est blâmé, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne lorsqu'il dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide, mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ainsi, on voit que l'aboutissement du parti du tout miséricordieux d'Allah subhanahu wa ta'ala est la prospérité et le succès, ainsi que la victoire et le triomphe, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. Alors que l'issue du parti du shaitan n'est que la perdition. Et c'est avec ces termes donc que le shir a conclu cette deuxième introduction. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.